suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Ah, ah.
Il est 8h en ce premier lundi du mois de février et comme tous les premiers lundis du mois, eh bien c'est l'heure de Tous Essentiels, une émission proposée par Virginie et où l'on va parler de revenus de base. Bonjour Virginie, ça va bien ? Ah bah écoute, j'avais pas mis ton micro, tu vois, écoute, ça va bien ma foi. Tu as un invité je crois également.
Oui, il s'appelle Florent, je le connais depuis quelques années déjà et vous allez voir, il est plein de ressources. Bonjour Florent.
Bonjour.
Ah mais tu es un peu loin Florent, tu es au téléphone.
Oui, je suis au téléphone, oui.
Eh bien dis donc, hein, la technique de Tous Essentiels progresse au jour par jour.
Alors, il est loin et pourtant c'est un Lillois très, très actif. Florent, donc pour te présenter, je vais commencer par cette fameuse question rituelle avec laquelle nous accueillons tous nos invités. Et je pense qu'il te permettra d'introduire notre sujet du jour. Imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois un revenu de base. C'est-à-dire que ça tombe sur ton compte, t'as rien à faire, tu bosses pas, tu l'as. Qu'est-ce que ça changerait pour toi ?
Ce que ça changerait pour moi, c'est pas forcément ce que je fais, pas forcément mon travail, mes activités, parce que j'ai un peu l'impression de faire un peu ce que je souhaite faire dans ma vie. Mais ce qui changerait beaucoup, c'est pour être un peu plus tranquille, parce que pour mon cas, choisir un peu ce qu'on veut faire pour que ça soit un travail éthique, on se met parfois dans des situations de précarité ou d'avoir peur du lendemain si on va avoir assez, d'avoir peur à la retraite si on cotise suffisamment. Enfin, c'est toutes ces préoccupations du quotidien liées aux ressources, alors que avoir un revenu de base, surtout inconditionnel, qu'on peut pas nous enlever. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a le RSA et compagnie, mais bon, ils peuvent nous dire, on vous l'enlève parce que vous n'avez pas accepté tel travail de merde. Donc, je pense que ça serait beaucoup plus de sérénité dans tout ce que je peux faire et moins avoir peur du lendemain.
Ouais, donc c'est surtout la sécurité matérielle et du coup une forme de sécurité mentale aussi, quoi. Plus de charge mentale sur la fin du mois, sur le minimum vital, courir après 3 sous pour vivre, c'est ça.
De mon côté, là, à un moment donné, j'ai pu avoir des allocations chômage qui me permettaient de vivre bien, quoi. Et c'est vrai que ça dure qu'un temps. Moi, ça a duré un peu plus de 2 ans et demi, parce que je travaille un petit peu en même temps, on reparlera. Mais c'est vrai que c'est au départ, c'est qu'on peut voir un peu comment ça serait avec un revenu de base, mais sauf qu'un revenu de base continuerait normalement jusqu'à sa mort. Donc c'est pas pareil.
Et alors toi, t'as fait quoi de tes allocations chômage ? Tu t'es reposé, j'imagine. Enfin, j'espère, vacances.
Un petit peu. Je me suis un petit peu reposé au début, mais bon. Après, c'était pour moi l'occasion de faire autre chose, parce que bon, avant, j'étais précaire dans un laboratoire de recherche, parce que j'ai fait un doctorat, mais puis après, il y a beaucoup de contrats qui peuvent être de 6 mois, de 1 an, enfin des contrats courts, et avant d'avoir un poste, il y en a très peu, enfin bref. Et bon, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de faire ça, et j'ai voulu changer un peu complètement, faire quelque chose d'un peu plus, un travail qui a plus de sens pour moi, et que ce soit un peu plus un travail physique par rapport au travail intellectuel que je faisais. Donc J'ai décidé à l'époque de créer une entreprise de livraison à vélo sur l'île. Et donc ça m'a permis d'avoir le temps de me former, de m'intéresser à comment on crée une entreprise, tout ça. Moi, je connaissais absolument rien à l'époque. Ce qu'il fallait prévoir, aller voir les clients, tout ça, c'est quelque chose d'assez long. Et ça m'a permis de le faire de manière sereine et puis de prendre aussi plaisir, quoi, de pas se dire faut absolument que l'argent y rentre, mais de pouvoir pouvoir refuser des clients avec qui on n'aurait pas forcément envie de travailler, parce que le but c'était pas non plus de faire un travail qui n'allait pas me plaire. Pas me plaire dans le sens pas avec un bon environnement. Je préfère travailler avec des gens avec qui ça se passe bien. Et donc c'est un peu, je pense, cette sérénité aussi dans le travail qui permet d'avoir plus le temps.
Oui, du coup, ce que j'entends, c'est que non seulement tu as eu le temps pour te poser déjà, pour te former, et donc pour adapter aussi, j'ai en tête toute la transition écologique qui se profile devant nous avec un degré d'urgence plus ou moins grand selon les spécialistes, mais quand même, comment changer de boulot, pouvoir être serein et le faire aussi en lien avec tes valeurs et des conditions de travail qui te sont adaptées finalement, qui te correspondent, ton rythme. Et de le faire dans la sérénité, parce que tu choisis aussi tes collaborateurs, quoi.
Tout à fait, oui, c'est ça.
Merci beaucoup. En tout cas, alors, grâce à toi, j'espère que les auditeurs auront compris la thématique du mois. On va parler de revenus de base, bien sûr. Hein, ça, c'est la thématique de l'émission, tout c'est essentiel. Et là, on va aborder un sujet qui est rarement... exploré, c'est l'entreprise, le monde de l'entreprise. On a tendance souvent à opposer les deux, puisque revenu de base, on pense souvent on va éradiquer la misère ou la pauvreté. Sauf que on oublie aussi que ça stimule l'économie et que ça libère. Alors ça libère l'homme du travail, mais ça libère aussi le travail de l'homme. Oui, bon, d'accord. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais je trouvais que la formule était belle. Donc concrètement, ça permet aussi à chacun et chacune de se lancer dans sa propre activité, mais une activité qui est choisie, qui est adaptée, avec des conditions de travail modulables, négociables. Et donc là, on va parler plus précisément, non pas forcément des grosses entreprises, celles à multiples hiérarchies. Finalement, on ne maîtrise plus grand-chose. Et puis le N+1, c'est le N-1 de 10 personnes. Mais non, là, on va parler plutôt de l'entrepreneuriat, de l'auto-entrepreneuriat, des mini-entreprises, etc. Enfin, tous les termes qu'on peut y trouver. Bref, ceux qui prennent leur courage à deux mains et qui construisent leur propre emploi.
Et il faut savoir que c'est les petites entreprises qui représentent 2/3 des emplois et plus de la moitié du PIB national.
Mmh. Autour de tout ce qui est artisanat.
Oui, ou des petites entreprises avec des TPE, des PME, pas forcément, voilà.
Et j'ai envie de rajouter aussi, pour compléter ce que tu dis, c'est que ça correspond à un type d'économie qui est lié à l'économie réelle, c'est-à-dire que c'est vraiment des biens et des services qu'on s'échange et qui ont un impact local, qui vont valoriser les deux partenaires, le vendeur ou le commerçant ou le producteur et le client. Et on est loin des petites start-up dont on pourrait... auquel on pourrait tout de suite penser. On est vraiment dans un tissu économique vital pour même localement. Et donc du coup, tu nous parlais de ta petite entreprise qui ne connaît pas la crise, en tout cas j'espère. Et du coup, tu disais aussi que tu n'étais pas forcément tout seul. Donc tu as choisi tes collaborateurs. Comment ça s'est passé ?
Oui, alors à la base, j'ai commencé comme auto-entrepreneur et au bout d'un moment, je sentais que j'avais trop de travail, donc je me suis dit bon, je vais pas faire ça tout seul. Mon but à la base, c'était quand même de faire ça à mi-temps et d'avoir mon autre mi-temps qui soit toujours en informatique, mais en tant qu'indépendant. C'était vraiment de concilier les deux, un travail physique, un travail intellectuel. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint ce qu'on appelle une coopérative d'activité et d'emploi. C'est une CAE qui permet en fait d'avoir un travail indépendant, une activité qu'on maîtrise complètement, mais de pouvoir quand même être salarié de la coopérative. En gros, on ramène un chiffre d'affaires et la coopérative transforme une partie du chiffre d'affaires, hein, sa valeur ajoutée, en salaire pour avoir tous les droits qui soient associés. Et bon, ça, il y a ce premier côté. Et le deuxième côté, c'est pas être seul, c'est d'avoir d'autres entrepreneurs avec soi qui peuvent faire des choses complètement différentes. Dans ce cadre-là, j'ai cherché, voilà. Dans la coopérative en question, il y avait pareil, il y avait un informaticien qui, pareil au départ, hein, quelqu'un qui voulait rejoindre la coopérative pour faire de la livraison à vélo. Et puis c'est dans ce cadre-là en fait de cette coopérative que j'ai pu travailler avec d'autres personnes sur cette activité. Voilà.
Non, ce que j'entends, c'est qu'en plus, t'es pas tout seul en auto-entrepreneur, c'est tout un réseau. Quoi.
Voilà, c'est tout un réseau. C'est déjà le réseau des personnes qui sont dans la coopérative. Et puis en plus, il y a plusieurs des CAE, il y en a pas mal en France. Et c'est aussi en réseau, tous ces gens-là. Donc on peut aussi s'entraider sur tout plein de choses.
Et de mon côté, ce que j'ai compris, c'est que tu es à la fois chef d'entreprise, mais également cheville ouvrière de ton entreprise.
Tout à fait, oui. En tant que salarié de la coopérative, on peut dire que je suis employé comme une employée de n'importe quelle entreprise, mais en même temps, c'est moi qui décide de mon activité, les heures que je fais, quand je commence, quand je finis, mes horaires, ce que je veux gagner, si je veux gagner beaucoup, si je veux gagner pas beaucoup, mes clients, enfin voilà, je décide de tout.
Et donc, ça dépend de la taille du braquet ?
C'est-à-dire la taille du braquet ?
Non, c'est pour le vélo où je parle.
Ah oui. Oui.
En tout cas, j'entends plus de valeur et aussi plus de choix, de sécurité que certains livreurs à vélo dont on ne citera pas les grosses entreprises qui sont exploitées, qui sont responsables de tout et qui bénéficient d'aucune protection sociale.
Oui, avec l'ubérisation, ouais, alors là, en plus, c'est des auto-entrepreneurs qui ne le sont pas vraiment, enfin, qui ne le sont même presque quasiment pas, puisqu'ils ne choisissent pas vraiment comment ils travaillent. C'est une machine, hein, c'est leur smartphone qui dit ce qu'il faut faire. On sait qu'au niveau juridique, c'est beaucoup remis en cause, et puis il y en a qui arrivent à gagner et puis à être l'entreprise d'ubérisation fait en sorte qu'ils doivent faire en sorte qu'ils soient salariés, parce que c'est un travail de salarié avec une subordination. Donc oui, effectivement, c'est pas les mêmes conditions de travail. Alors, c'est vraiment pas du tout pareil, je dirais, parce que dans le sens où ils choisissent pas leurs clients. Enfin, c'est vraiment un travail subordonné où on leur dit quoi faire. Et oui, au niveau de la sécurité, parce que ça, c'est important. Parce qu'à la limite, on pourrait faire, hein, ils pourraient avoir ce même système de plateforme où on nous dit ce qu'il faut faire comme course, tout ça, mise en relation entre le client et le travailleur.
Ben oui.
Mais si ça serait dans des coopératives où ils seraient obligés du coup de payer les cotisations, tout ça, pour avoir une sécurité, pour avoir du chômage, pour avoir une bonne sécurité sociale, ça serait possible. Si on leur obligeait, on leur dirait ok, vous pouvez faire ce travail-là, mais vous devez être dans une coopérative d'activité d'emploi pour pouvoir être salarié. Voilà, parce que c'est aussi la sécurité, c'est aussi au niveau du droit du travail, au niveau de l'accident du travail.
Bien sûr,
parce que quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas cette sécurité, cette protection de protection sur l'accident du travail. Enfin, non, quand on a un accident du travail en tant que salarié ou en tant qu'auto-entrepreneur, c'est pas du tout pareil au niveau de la gestion de la sécurité sociale. On est beaucoup moins couvert. Et c'est pas compté aussi dans les chiffres des accidents du travail au niveau national. C'est quelque chose de beaucoup plus flou parce que dans un travail comme ça où c'est quand même être sur la route par n'importe quel temps avec des voitures autour et compagnie, c'est quand même assez risqué. Enfin, il y a beaucoup plus risqué, hein. Mais bon, il y a certains risques et c'est quand même mieux d'avoir les mêmes droits qu'un salarié, parce que c'est pas pour ça aussi. Enfin, dans l'histoire, on s'est beaucoup battu pour ces droits-là. Et bon, il faut pas les renier complètement par ce nouveau statut d'auto-entrepreneur.
Mais ce que j'entends, c'est que ce nouveau statut, finalement, il a vendu de la liberté, d'être libre de choisir ses conditions de travail, son boulot, etc. Et en fait, derrière, c'était pour renier sur la sécurité, faire des économies à tout craint. Et que là, certains syndicats qu'on peut saluer aujourd'hui font vraiment un énorme travail de lien autour de ces livreurs pour libérer leurs paroles, pour médiatiser aussi leurs conditions de travail. Il y a eu des morts qui ont été médiatisées, qui ont permis de faire connaître tout ça. Et j'entends aussi une autre chose dans ton histoire qui m'intéresse beaucoup, parce que figure-toi que quand je parle du revenu de base, on me dit souvent... oui, mais le revenu de base, le problème, c'est que les entrepreneurs, donc entendez évidemment les grands méchants, c'est comme ça qu'ils sont traduits en tout cas, en fait, ils vont vider les salaires, puisqu'ils vont vous dire, puisque vous avez déjà votre revenu de base, vous n'avez pas besoin d'un SMIC, vous n'avez pas besoin de tout ce que je vous donne, vous avez déjà un complément. Et en fait, avec ton histoire, on entend tout le contraire, puisque finalement, alors déjà avec les allocations chômage, tu as pu sortir d'un système qui était quand même hyper précaire. Quand tu disais, oui, il y a des petits boulots, mais ils n'étaient pas très longs. Pourtant, dans le domaine de la recherche, on peut imaginer que ça peut être utile. Même là, finalement, il n'y avait pas de conditions de travail ni épanouissantes, ni même utiles, ni même sécurisées, etc. Et tu as pu sortir de ça grâce, alors j'imagine aussi, des compétences, peut-être pas d'enfants... en bas âge, etc. Enfin, oui, c'est aussi des conditions... il faut les citer aussi. Et du coup, grâce aux allocations chômage, tu as pu sortir de ça, et qu'on peut imaginer quand même qu'avec un revenu de base, ça viendrait sécuriser tous ces départs d'emploi, quoi. Et ça se voit même aux États-Unis en ce moment. La crise du Covid a lancé une espèce d'énorme vague dont on parle beaucoup, parce que beaucoup de gens quittent leur emploi, en fait. Et parce qu'ils ont pu interroger le sens et puis mesurer l'impact de leur emploi sur leur santé, sur leurs conditions de vie.
C'est aussi, à un moment donné, je pense, le fait d'arrêter de poser des questions, de pas la tête dans le guidon.
Oui, c'est le cas de le dire.
Et de réfléchir au sens. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Et puis, il y en a beaucoup, sans doute, qui se sont dit, qui se sont posé les questions. Ils ont dit, pourquoi accepter n'importe quoi, alors que, on peut peut-être sortir autrement et faire autre chose. Ouais.
Ben oui, exactement. Et justement, du coup, ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit témoignage de Thomas, 25 ans, extrait du film « Les gens ». Pour se questionner, parce qu'après tout, effectivement, avec un revenu de base, pourquoi aller travailler si en plus on est à son compte, on peut choisir de ne plus rien faire, et puis on enchaînera avec quelques musiques de notre maestro. Action !
Alors pour moi, le revenu de base, c'est un peu un outil de plus qui nous permet de nous construire une vie qui est vraiment à notre image. Moi, j'ai un credo dans tout ce que je fais, c'est que notre activité professionnelle se doit d'être au service de notre mode de vie idéal. Mais du coup, pour les gens qui ne veulent pas devenir freelance comme je suis, ou indépendant, ou monter leur boîte, ou qui peut-être n'ont pas envie d'avoir une activité professionnelle, je trouve que c'est un autre bel outil qui permettrait aux gens de prendre des décisions plus alignées avec qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent vivre au quotidien.
Mon vélo est bancal, il en est devenu musical. We are the champions tous les deux, tout queen sauf les pneus, c'est pas banal, c'est musical. Mon vélo a vieilli, il fait de plus en plus de bruit, du garde-boue au protège cambouis. Mon vélo, c'est mon vélo. Et si on m'enlève mon vélo, c'est les sardines à l'huile. L'air de ma chambre à air, de quoi j'aurais l'air. Mon vélo me coûtait que dalle, il gisait dégonflé dans le coin d'une brocante, et pour trois fois rien, j'ai troqué mon volant pour des pédales. C'est idéal. Mon vélo ne fait plus d'envieux, mais je lui laisse sa poudre aux yeux. Son antivol, c'est un peu comme un parapluie sous un ciel bleu. Inutile et frivole. Oui, mais mon vélo, c'est mon vélo. Et si on m'enlève mon vélo, c'est comme si on m'enlevait l'eau de mon sirop à l'eau. L'huile de mes sardines à l'huile. L'air de ma chambre à air. De quoi j'aurais l'air. Mon vélo et mes vieux os. Quand on a senti venir le grand saut, on a choisi de lâcher les mains.
C'était Gérald Gentil sur les ondes de Radio Campus 106,6 pour cette douce essentielle consacrée à l'entrepreneuriat. Et voilà, on y est.
Et on retrouve Florent qui non seulement a changé de métier, voilà, les conditions de travail dans la recherche n'étaient pas suffisamment épanouissante, sécure, long terme, voilà, il n'y avait pas beaucoup de sens, et du coup, il s'est mis sur un vélo. Tu nous as dit que tu voulais faire marcher tes petits muscles, moi j'admire, hein, j'admire beaucoup, moi, je préfère faire marcher la tête. Et quand je t'ai rencontré à l'époque, on parlait déjà beaucoup de revenus de base, au début du mouvement français pour le revenu de base, et tu as fait quelque chose qui m'a épaté, tu as construit ta propre version de revenu de base. Est-ce que tu veux nous en parler ?
Moi, mon constat à la base, c'était de se dire qu'il faut construire un revenu de base où le travail il est un peu au centre, enfin notre activité qu'on souhaite faire soit au centre, et qui permet aussi que ça soit en fait que ça soit un modèle gagnant-gagnant avec aussi les entreprises. Et donc ce que je proposais, oui, c'est donc un revenu de base qui soit suffisant pour vivre et donc suffisant pour refuser un emploi qu'on souhaite pas. Et qui permet aussi de simplifier la gestion des petites entreprises et aussi des minima sociaux. Donc ce que je propose, hein, c'est un article que j'ai écrit qui est sur le site de revenu-de-base.info. Ça s'appelle un revenu de base par la cotisation sur la valeur ajoutée. Donc l'idée c'est de financer le revenu de base comme aujourd'hui on finance la sécurité sociale en prenant une partie de la valeur ajoutée, donc qui est la différence entre le chiffre d'affaires, donc tout le revenu d'une entreprise et ses dépenses, grosso modo, pour faire simple. Et donc l'idée, bah, c'est de proposer à tous un SMIC revalorisé. Alors par exemple, hein, je donne des chiffres comme ça que j'ai mis dans mon article, mais bon, ça c'est toujours sujet à discussion. Par exemple, on donne tous à chaque personne 1 300 euros. Donc par adulte et 260 euros par enfant.
C'est déjà plus que le SMIC.
C'est déjà plus, donc un SMIC revalorisé, un SMIC net revalorisé. Si on regarde combien ça représente, c'est à peu près la moitié de du PIB, c'est-à-dire la moitié de la somme de la valeur ajoutée de toutes les entreprises. Donc l'idée, c'est un peu de mutualiser en fait les salaires. C'est-à-dire, au lieu que chaque entreprise paye leur employé directement, c'est qu'une grosse partie, la partie donc revenu de base, soit payée à une caisse de cotisation. D'accord. Et que cette caisse puisse payer tout le monde par un revenu de base, que la personne travaille ou non.
J'aime l'idée au passage que tu revalorises le mot cotisation, c'est-à-dire que c'est pas un coût pour l'entreprise, c'est un investissement.
C'est un investissement. Alors aujourd'hui, c'est un investissement parce que ça garantit à que chacun puisse être en bonne santé, puisse avoir des allocations chômage, donc avoir le temps de retrouver un travail, enfin voilà, de se mettre toujours dans des conditions qui ne soient pas extrêmement précaires. Donc oui, effectivement, c'est comme ça qu'il faut voir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que ça a un coût sur le travail. Enfin, c'est le MEDEF, hein. Faut être clair que
oui, voilà.
C'est pas non plus tous les... Il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs, hein, de chefs d'entreprise qui sont très contents de payer des cotisations, j'en suis persuadé.
Mais toi, tu payes pas de cotisations au MEDEF, du coup, je comprends.
Non. non, j'en ai pas du tout envie. C'est pas, et personne dans ma coopérative va payer de cotisations MEDEF, à ma connaissance.
Sinon, tu les renies.
Donc voilà. Enfin, l'idée, c'est que, enfin, il y a des chiffres, par exemple. Enfin, j'ai un chiffre de 2009 qui dit que les salaires et les cotisations représentent 67% de la valeur ajoutée totale. Et donc, on peut se dire que dans ces 67%-là, on prend 50%. On laisse quand même 17% à l'entreprise pour qu'elle puisse payer plus les employés que le simple revenu de base, mais que ces 50% au niveau de national soit un salaire mutualisé, quoi, qui sert à payer un revenu de base.
En tout cas, tes calculs prouvent que non seulement c'est possible et qu'on peut articuler un revenu de base avec le réseau, le tissu économique, et que c'est pas une espèce de poids, parce que c'est souvent présenté comme ça, c'est souvent présenté comme lié dans la même ambiance que ces aides qu'on donne aux pauvres parce qu'ils nous font chier et que on veut avoir bonne conscience, que on le transformerait en revenu de base pour que ce soit plus simple et qu'ils arrêtent de râler, finalement, c'est pauvre. Ben non, en fait, c'est pas du tout cette espèce de social mal pensé. C'est carrément pour rebooster l'économie générale, réelle, de nos échanges, et ça rebooste aussi le tissu entrepreneurial, quoi.
Oui, et surtout, ce qui est important de préciser, c'est que pour les petites entreprises, alors pas des très grosses entreprises pour qui les salariés sont des variables d'ajustement, mais bon, pour la plupart des entreprises, donc plutôt petites entreprises, la gestion des salaires, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Donc ça peut aussi leur faciliter la vie, de savoir que quelles que soient les conditions économiques de l'entreprise, que la personne qui travaille, elle a toujours de quoi vivre. Et parce qu'aujourd'hui, un salaire, c'est un coût fixe pour l'entreprise, ce qui est normal, parce que il faut que ça soit une obligation de verser un salaire à quelqu'un. Donc c'est tout à fait normal que ça soit un coût fixe aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de protection suffisante derrière. Mais avec un revenu de base tel que je le présente, ce n'est plus un coût fixe, mais c'est un coût variable par rapport à la valeur ajoutée, puisque la part nécessaire à financer revenu de base, c'est donc la moitié de la valeur ajoutée, ça reste toujours 50%. On leur demande, quel que soit le ce qu'ils font. Alors si c'est une entreprise qui marche très bien, ils vont donner plus que ce que coûte le revenu de base qui donne aux employés. Mais si à un moment donné ça marche pas bien, ou que c'est le départ ou tout ça, ça leur permet que l'employé soit mieux rémunéré. Et en plus de ça, ils peuvent, avec le reste de la valeur ajoutée après avoir payé les cotisations, ça leur permet de verser ce que j'appelle un salaire complémentaire, qui est donc un salaire comme aujourd'hui, mais qui sera, suivant les personnes, plus ou moins élevé. Et ce salaire complémentaire, bah, le travailleur, il peut arriver là et le négocier de manière beaucoup plus sereine.
Bien sûr.
Parce qu'ils peuvent dire, bah, si là, je vois bien que l'entreprise fonctionne bien, ou là, le travail que je fais, bah, il est quand même très dur et très, très difficile, donc quand même, il faudrait un salaire complémentaire qui soit... qui corresponde, quoi, qui permet de compenser la pénibilité. Et je continue pas à travailler, je vais voir ailleurs. Donc c'est à la fois ça va permettre, enfin on le dit souvent avec les revenus de base, que ça permettrait aussi que les travaux les plus difficiles soient mieux payés que d'autres travaux, parce qu'on a le choix de les refuser.
Et puis, à l'inverse, ça permettra aussi aux employeurs, grâce aussi à la sécurité et la solidarité que ton système, enfin ta proposition instaurerait, ça permet aussi d'être plus proche des réalités de la productivité. Je vais vous proposer d'écouter le témoignage d'un entrepreneur allemand. Donc c'est extrait du film Le Revenu de Base, le film allemand qui est sorti en 2008. Et cet entrepreneur, il est parti de rien, en fait. Il était un simple artisan et il a monté son petit commerce de bricolage. Et en fait, ça a tellement bien marché que maintenant, il est à la tête de plusieurs enseignes, répartie dans toute l'Allemagne. Il s'appelle Gertz Weber et il nous parle là du revenu de base qu'il soutient activement, mais du point de vue de l'entrepreneur cette fois-ci.
Suffisance. La question qui se pose, c'est celle du travail. Le travail pour obtenir les matières premières et le travail de production sont en train de disparaître. Dieu merci. Le sens de l'économie, c'est de libérer l'homme du travail.
Ce n'est pas écrit dans le journal. Se libérer. Mais pour aller où? Ce n'est pas écrit non plus dans les directives des chefs d'entreprise. Licencier des collaborateurs n'est facile pour personne. Mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. Mais si on reconnaissait cet état de fait en le considérant même comme un devoir, un autre sens apparaîtrait.
Se libérer du travail veut dire aussi se libérer pour le travail. Penser qu'au-delà de la grille, il n'y aurait que vacances et loisirs, c'est le point de vue de la dépendance. Il ne reste alors qu'un espoir, de nouvelles places de travail.
De quelle nature sont donc les places de travail dans lesquelles on investit aujourd'hui?
Tous les investissements dans de nouveaux postes de travail sont en même temps des mesures de rationalisation. On y développe des méthodes pour économiser des emplois. Jamais un patron ne vous dira « Comment puis-je faire pour créer plus de travail ?»
La tâche de l'économie, c'est de satisfaire des besoins. Efficacement, comme chacun le fait aussi, elle n'a donc pas pour tâche de créer du travail. Et en face de cette réalité, on observe que chaque être humain porte en lui ses propres objectifs et son travail, et qu'il les abandonne parce qu'il ne peut les convertir en argent.
Le problème de société que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui ont une place de travail n'ont en réalité qu'une place de revenu.
N'avoir qu'une place de revenu veut dire avoir un travail uniquement pour épuiser son revenu. Un travail qui n'a pas de sens. Pour la société, ce manque de sens pose problème parce qu'il fait émerger beaucoup de frustrations et de pathologies chroniques. En Allemagne, 12% des salariés se sentent tout à fait à leur place. Cela fait un peu plus d'un sur 10. Plus de la moitié, 54%, sont plus ou moins insatisfaits de leur travail, mais apprécient néanmoins ses bons côtés. Enfin, 34% sont clairement mécontents de leur travail. Autrement dit, 1 sur 3. Ce qu'on appelle conflit du travail est en fait un conflit du revenu. Et dans les conditions du travail, on se bat contre la privation de travail. Car mon travail, c'est moi. Mais il ne peut y avoir de droit à un travail qui m'oblige. Il n'existe pas de droit à être obligé de faire quelque chose, comme il n'y a pas non plus de droit à être acheté. Le droit au travail ne peut signifier que le droit d'exercer une activité choisie, que personne ne peut octroyer ou enlever. Un tel droit au travail suppose un droit au revenu.
Alors, j'avais envie de vous faire écouter ce passage-là parce que, alors, outre le témoignage de Götz Werber qui est vraiment très intéressant, vraiment le point de vue de l'entrepreneur, celui qui a les mains dans le cambouis sur notre économie, c'est-à-dire les flux entre production et besoins, il y a aussi un renversement de la pensée, parce qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui, et je l'entends même dans des associations caritatives qui ont pignon sur rue et qui défendent vraiment sur le terrain, avec beaucoup de conscience et d'envie, les conditions de vie des plus précaires, un droit au travail. Et quand j'entends droit au travail, j'ai juste envie de hurler, anticapitaliste, parce que voilà, c'est très capitaliste ce droit au travail, ce droit à l'emploi, comme si... Il fallait revendiquer de pouvoir posséder, quoi, finalement, subir un esclavage, puisque quand on entend travail ou valeur travail aujourd'hui, on entend surtout valeur emploi, et qu'on sous-entend qu'on n'est utile que quand on a un patron qui reconnaît notre utilité grâce et à l'aune d'un salaire et normalement de conditions de travail qui sont dépendantes du coût de l'employeur.
Tu veux dire qu'en fait, les patrons, ils bossent pas?
Si, tout à fait. Mais il y a un certain type de patron, et Florent en a fait référence, pour qui les personnes ne sont que des variables d'ajustement pour des bénéfices, pour les actionnaires. Et aujourd'hui, comme les actionnaires, ça peut être nous, à travers toutes ces assurances, tous ces fonds de pension, il faut y penser aussi.
En fait, ils passent leur temps à fumer des cigares.
Quand les cigares, ils changeront de bouche. Quand les stars, elles changeront de main. Quand la bonne soupe, elle changera de louche. Qui sera dans le botin? Quand les gibus, ils changeront de tête. Quand les bagouses, elles changeront de doigts. Quand l'homard, il changera de fourchette. Les employés, on sera les rois. Il faudra plus nous négliger. C'est nous qu'on sera les PDG. Remarquez même en Rockefeller, je resterai comme un fils d'ouvrier. Un employé, un bas salaire, c'est une chose à pas oublier. Oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de bignou. Quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise. Alors la vie, les gentlemen, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Changeront de bouche, quand les stars elles changeront demain, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le botin, quand les gibus ils changeront de tiède, quand les bagouses elles changeront de doigts, quand l'homard il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG.
La 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 PDG.
Une reprise de Loïc Lantoine de cette célèbre chanson de Raoul.
Alors, à l'autre bout de l'arc-en-ciel des entrepreneurs, parce qu'il y en a plein, j'ai envie de vous parler de Frédéric Bosquet, qui s'appelle de lui-même entrepreneur humaniste. Alors, Frédéric Bosquet, il a travaillé dans des entreprises avec une plus-value sociale, puisqu'il faisait du recrutement, de la réinsertion, comme on dit. Et puis un jour, il a tout arrêté, donc il a donné son entreprise à ses ouvriers. Il s'est arrêté quelques temps, il a fait 2-3 tours de France à vélo, avec l'idée du revenu de base en tête. Et figurez-vous qu'il s'arrêtait dans un petit village qui s'appelle L'Artel, dans le Lot-et-Garonne, on vous en a déjà parlé, et qu'il a créé Terra, qui s'appelle Tous Ensemble, un revenu d'autonomie, T-E-R-A, vous retrouverez sur leur site, un extrait de la petite vidéo que je vais vous passer, et où en fait, figurez-vous qu'ils ont réussi à lancer tout un écosystème pour revivifier un territoire rural. Une autre plus-value du revenu de base, puisque là, en partant des besoins d'un territoire qui était en train de mourir par faute d'habitants, tout simplement, ils ont réussi à coordonner sur 3 lieux différents de la production maraîchère, de la vente d'autres produits locaux et aussi tout un local sur plutôt de la vente de services, de construction de maisons autonomes. Alors là, je vous fais un très très résumé. C'est une expérimentation qui est suivie par la région et donc qui sera dans quelques années transférables, puisque ils suivent, voilà, ils ont un suivi scientifique qui permet d'en faire un modèle. Et là, on va écouter des personnes qui ont déjà un revenu de base. Plus précisément, Simon, qui va nous parler de qui est le maraîcher et qui va nous parler de comment il vit son revenu de base à lui.
J'ai jamais vu aujourd'hui d'agriculteurs qui arrivent à bien gagner leur vie et qui ont du temps en plus derrière pour en profiter un peu. J'en connais pas. Et j'en commence à en connaître pas mal des agriculteurs autour. Moi, je sais qu'on me donne un revenu d'autonomie là aujourd'hui. J'ai aucune obligation de me lever le matin pour bosser. Mais je viens, je fais de l'accueil des volontaires ici, je fais de la gestion à terra, je fais l'activité de maraîchage, je fais les abeilles, bientôt j'aurai encore je vais recommencer les moutons parce que j'ai envie d'offrir au monde plein de choses, tu vois. Et voilà. Pour moi, c'est ça le revenu d'autonomie. Ça me met moi en sécurité par contre. Ça veut dire que je peux, du coup, créer ce que je veux, comme je le veux, comme je l'entends, avec tous les gens qui vont être liés à ça. Qui vont recevoir en fait, et sans me dire je peux le faire que 2 heures par semaine parce que tout le reste du temps il faut que j'aille travailler à McDo pour gagner de l'argent parce que voilà.
Un projet encore en
Alors on a entendu Simon, ils sont plusieurs, vous pourrez retrouver le film sur leur site terra.coop. Est-ce que tu fais un lien, Florent, avec ta propre expérience, ta petite entreprise?
Dans un sens, oui, c'est de dire, au départ, malgré que j'avais mes allocations chômage, tout ça, j'ai quand même eu envie de faire des choses. Et c'est humain d'avoir envie de faire des choses, quoi. C'est vraiment quelque chose d'humain, je pense. Et donc c'est ce qu'il disait, hein, malgré d'avoir ce qu'il faut pour vivre, il va quand même faire ce qu'il pense bien à apporter à la nature, au monde, à la société.
Alors c'est tout à fait humain et pourtant c'est complètement contre-intuitif, en tout cas dans notre civilisation là aujourd'hui, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que les gens sont fainéants. Alors moi ce que j'entends souvent, alors les jeunes sont fainéants, je suis désolée de le dire pour les jeunes qui nous entendent, mais on voit bien que dès qu'on les contraint un peu à porter autre chose que des baskets au boulot, voilà, ils réussissent pas à tenir des horaires, etc. C'est une réalité, ma brave dame. C'est une réalité. Les fonctionnaires, on n'en parle pas. Hein. Moi, je suis prof. Alors, vous imaginez, j'ai que 18 heures de cours par semaine. On parle aussi des femmes. Les femmes, dès qu'elles ont un enfant, on les voit plus. Elles sont malades. Elles sont absentes pour enfants malades tout le temps. Les pré-retraités, comme leur nom l'indique, ils ne se définissent que par la retraite qui arrive et bientôt et presque tout de suite et bientôt, etc. Donc en fait, finalement, il n'y a que le cadre trentenaire moyen et dynamique, forcément, qui est dispensé de ce soupçon de fainéantise absolue. Alors qu'on voit effectivement que le besoin de se rendre utile dès la petite enfance, tant qu'il n'est pas cassé par les punitions et les récompenses et une certaine éducation, on l'a tous, on a envie de se rendre utile, on a envie de trouver notre place.
Et on voit bien, tu parlais des retraités, La retraite, c'est aussi la libération, hein, c'est se libérer de notre emploi, parce que derrière, pour ceux qui ont une retraite suffisante pour vivre, ils peuvent s'occuper des petits-enfants, ils peuvent faire plein de choses, aller dans des associations, faire un travail qui apporte autant que n'importe quel employé. Et comme c'est choisi, ça apporte de manière beaucoup mieux qualitative à la société tout ce qu'ils peuvent faire. Hein. C'est vraiment
tout à fait.
Il ne faut pas réduire. On a tendance à notre société à réduire les retraités juste comme des consommateurs, qui
font des grands voyages.
Voilà tout ça. Mais
on a abordé le bénévolat l'année dernière, le mois dernier, oui, presque l'année dernière, pas encore. C'était en janvier. Pour effectivement rappeler qu'il y a 2/3 de nos heures de travail qui sont complètement bénévoles et pourtant qu'on fait souvent avec plus de joie que les autres. Et alors quelques petits chiffres pour repère, parce qu'il y a des expérimentations de revenus de base aussi partout dans le monde et qui nous donnent déjà des indices de qu'est-ce que pourrait donner un revenu de base à plus ou moins grande échelle. Et donc par exemple, pour quelques chiffres en Afrique notamment, en Namibie, il y a une expérimentation qui a duré un an et demi, alors financée par une fondation. Et en fait, juste sur un an et demi, ils ont versé à tous les habitants d'un gros village, en fait, une retraite, l'équivalent de la retraite là-bas. Donc tout le monde avait sa retraite à partir de 18 ans. Et ce qu'on voit, c'est que même en un an et demi, ce qui est quand même un délai assez court, il y a eu plus de 300% du revenu, donc de la masse monétaire qui a circulé dans le village, au-delà de ce que le revenu de base avait apporté. Donc ça veut dire qu'il y a eu des investissements et que ça a fait venir de l'argent frais, de l'argent pour faire des échanges dans ce village. On a eu aussi une baisse du chômage de 15% et une hausse du revenu par habitant de presque 30%. Et en fait, ça s'explique juste par quelque chose de très simple, et c'est notre sujet aujourd'hui, c'est que les personnes qui se sont retrouvées avec une sécurité financière et donc une sécurité aussi mentale, eh bien en fait, ont pu avoir donc libéré du temps, mais aussi libéré de la tête, quoi, des capacités cognitives pour transformer leur savoir-faire en entreprise. Et donc, il y a eu une explosion de petits entrepreneuriats qui prenaient des compétences de cuisine. Je vais monter une petite cuisine de quartier. Moi, je peux faire ci, moi, je peux faire ça. Donc, l'artisanat a refleuri. Ça a fait effectivement revenir des capitaux et des personnes dans le village, des personnes qui avaient dû en partir pour trouver du travail sans en trouver, bien sûr, dans les bidonvilles des grosses villes. Et en fait, toute cette économie a bénéficié à tout le monde puisque les personnes n'avaient plus besoin d'attendre un patron qui veuille bien leur offrir un salaire, donc un revenu, on parlait du droit au revenu tout à l'heure, sur leurs propres compétences, de façon adéquate avec leur vie. Je pense notamment aux femmes avec leurs enfants. On ne va pas demander à une femme qui garde ses enfants, parce que c'est encore le cas là-bas, de travailler 50 heures par semaine, c'est pas possible. Elle doit aussi concilier cet autre travail qui est le travail de l'éducation des enfants, etc. Et donc c'est tout un cercle vertueux économique, pour le coup, qui est stimulé. On retrouve dans d'autres expérimentations parallèles, en Ouganda ou au Kenya, par exemple, des effets complètement positifs, où, par exemple, on a des chiffres comme les jeunes qui reçoivent un revenu de base ont 60% de plus de chances d'être embauchés. Donc, on est plus employable, non pas... Alors, ça, on le sait déjà quand on a déjà un emploi, hein, on est plus sexy quand on travaille déjà, ce qui est quand même un comble, mais aussi quand on a un revenu de base, parce qu'on est plus en sécurité, parce qu'on aborde les choses plus sereinement, parce qu'on se connaît plus, parce que, comme tu as pu en témoigner, on peut se former, etc. Donc, le revenu de base, vraiment, c'est un stimulus économique, c'est une sorte de levier pour relocaliser une économie, et on l'a vu avec Terra ou avec ton propre exemple à vélo, que c'était aussi selon des valeurs. Et là, on arrive au bien commun aussi. C'est-à-dire que dans un secteur, dans une localité ou un bassin de vie, comme on dit, on peut évaluer et puis prioriser certains emplois parce qu'ils sont bons pour la nature et bons pour nous aussi, accessoirement.
Bon, je vous propose une petite pause musicale, si vous voulez.
Oui.
Comme ça nous laisse le temps de respirer 5 minutes. Et je la mets souvent, hein, même vu que je l'aime vraiment bien, je la remets. Il est important d'aller travailler. C'est Yvon Etienne qui ne veut pas en faire son métier.
Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. C'est dans le fœtus un beau matin que pousse ou pas le poil dans la main, rien que pour dire aux courageux qu'il s'en est fallu de peu. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. C'est à l'école qu'il faut choisir, en mettre un coup et bien marner, pour pouvoir espérer devenir un vrai de vrai ramier. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Car pour buller, faut la jouer fine, pas se contenter, c'est primordial d'avoir le premier prix de cantine ou de visite médicale. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Tous les milieux sont concernés, les riches, les pauvres, même les curés, avec ceux qui passent leur journée à faire semblant de bosser. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Les ceux qui fabriquent des canons ont leur statut dans les blédards. Personne n'a sculpté le mirliton de l'inventeur du plumard. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Un jour y en a et pas le lendemain. Un coup tu ris, un coup tu pleures, car le travail ça va, ça vient, comme les burnes d'un faucheur. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer. Il est important d'aller travailler, mais faut pas en faire son métier. C'est comme le tabac, faut pas abuser, on a vite fait de s'habituer.
Je ne veux plus. Je ne veux plus du mythe du patron qui se tourne les pouces et s'en fout plein les poches. Être sous-traité par Goliath, assumer les risques sous l'épée de Damoclès, me perdre dans le dédale administratif, tenir grâce au café, au cachet ou pire. J'aimerais payer dignement mon travail de titan, faire connaître et partager mon odyssée, oser investir, embaucher, entreprendre sereinement mes 12 travaux, adapter mon environnement à mes talons d'Achille, et à mes talents d'Achille, hein, je présume aussi, profiter de mes proches avec un calme olympien et libérer ma corne d'abondance créative. C'était le herbiste du mois de février, du coup, ça, Virginie.
Eh bien oui, c'est notre fameuse panoplie de témoignages que vous pourrez retrouver sur le site revenudebase.info. Et donc là, on entend que l'entrepreneur, il est aujourd'hui surchargé de complexité et puis surtout de stress, puisque concrètement, il met en jeu sa famille, sa vie, son hypothèque pour son entreprise, et qu'il aurait bien le droit de pouvoir se poser, recevoir le soutien collectif de la communauté pour pouvoir voilà, effectivement libérer sa créativité et faire profiter la société de ses idées et aussi peut-être en profiter lui-même. On parlait des maraîchers tout à l'heure qui ne connaissent pas les vacances. Est-ce que tu peux prendre quelques vacances, toi, Florent ?
Oui, enfin, je me mets pas la pression, donc oui, je prends un peu de vacances aussi. Hein. Depuis le départ, je me suis toujours dit, si à un moment donné, je prends un peu de vacances, je ferme et puis c'est tout. Et puis, ou quelqu'un d'autre me remplace, mais... C'est souvent au mois d'août parce qu'il y a le moins de demandes, mais oui, c'est toujours possible. Il faut se l'autoriser en tout cas.
Et au niveau revenu, c'est ton revenu entrepreneurial qui a le dessus actuellement ?
Qui a le dessus par rapport. J'ai tout. Enfin, voilà, je me rémunère toujours en dessous du SMIC, mais avec les primes d'activité, ça me permet d'avoir un complément qui soit suffisant. Mais bon, c'est pas énorme, quoi. C'est vrai que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des choses que j'ai choisies, mais ça me met aussi dans des situations un peu précaires en termes de revenus. Mais j'adapte aussi ma vie en tant que telle, quoi. Et c'est vrai qu'avoir un peu plus de sécurité de ce côté-là, ça serait pas de refus, ouais.
Et alors, question subsidiaire, est-ce que tu as déjà signé l'ICE ?
Oui, oui.
Oui, parce qu'on oublie souvent de rappeler à nos auditeurs qu'il faut signer l'ICE.
Donc l'ICE, mais c'est quoi ?
C'est l'initiative européenne pour reconnaître un revenu de base, pour qu'on puisse en parler déjà au Parlement.
Oui, voilà, pour pouvoir aller voir le Parlement et lui demander de soutenir les États membres qui voudraient se lancer dans l'aventure. Alors, une petite expérimentation ou carrément une instauration au niveau national, rêvons un peu. Non, au niveau européen, rêvons beaucoup. Il paraît qu'il faut avoir des rêves très grands pour pouvoir les voir de loin. Moi, j'ai un rêve très grand, c'est d'avoir un revenu de base avant les 18 ans de mon fils. Donc, dépêchez-vous, allez signer. Il nous reste 8 ans pour l'instaurer et il vous reste jusqu'au 22 juin pour signer l'initiative. Et si on atteint 1 million répartis dans 7 pays, nos représentants vont pouvoir aller voir le Parlement européen, défendre la cause Et donc voilà, donc il y a plusieurs élections évidemment qui se profilent et l'idée du revenu de base grandit un petit peu tous azimuts. On les a pas signés, je ne les ai pas cités, mais sachez quand même qu'il y a plusieurs regroupements d'entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs notamment, qui défendent cette idée-là et qui, comme Florent, la traduisent très concrètement dans le tissu économique et pour soutenir toutes les initiatives. Professionnel ou non, d'ailleurs, on en a parlé. Et donc toi, Florent, avec ton revenu de base, est-ce que ça te permettrait de voir, tu as déjà parlé un peu de sécurité à court terme, mais puisque le revenu de base, c'est toute la vie, est-ce que ça t'ouvre aussi des opportunités pour plus tard ? Quand tu seras grand, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?
Bah, faire toujours ce que j'ai envie, enfin, toujours ce qui me... sur le enfin les toujours les enfin les par rapport aux envies que j'ai de contribuer à la société, de faire du bien au monde, voilà, c'est toujours ce que j'aurais envie de faire et surtout enfin il y a toujours, moi j'ai toujours aussi cette peur de me dire qu'à un moment donné je sais pas avec les politiques ultralibérales qu'on entend, tout ça, on peut dire, ah bah tiens, on supprime le RSA, on supprime je ne sais quoi. Et à un moment, de se dire, à des moments plus difficiles, se dire, de devoir accepter n'importe quoi comme travail pour pouvoir survivre, quoi. Mmh. Et bon, c'est aussi cette peur-là. Ouais.
Oui, ou même ne pas pouvoir se soigner, on a déjà...
Ou pas pouvoir se soigner, tout à fait, oui.
Une catégorie de la population
qui... Ils continuent toujours à attaquer l'hôpital public et puis la sécurité sociale. S'il faut avoir de l'argent pour soigner plus tard, c'est aussi problématique.
Oui, donc en fait, on voit qu'au-delà même de la relation employeur-employé, au-delà de l'envie de... tout ce foisonnement de créativité, même chez les plus jeunes, hein, des jeunes de 18 ans qui ont déjà plein d'idées et qui ont envie de se lancer dans un petit commerce et qui pourraient justement, avec leur revenu de base, investir dans un outil de travail, se former, comme on a parlé. Et ben en fait, pour l'instant, c'est juste fermé, c'est juste une pression terrible, et surtout c'est un grand gâchis pour la société, puisqu'on peut pas bénéficier de cette créativité, et on est tous contents que tu te sois pas enlisé dans le précariat de la recherche, et que tu puisses faire bénéficier à Lille d'un autre réseau que ce qu'on ne citera pas, mais qui exploite et qui précarise des gens, quoi.
Aujourd'hui, on est aussi dans des cercles de, on va dire de déflation. Enfin, moins les personnes ont de revenus, moins ils peuvent consommer, et moins ils peuvent faire vivre des petites entreprises qui sont dans un tissu économique local et qui souvent vendent des choses un peu plus chères parce qu'ils n'ont pas le choix, mais que derrière, il faut quand même des gens qui ont un peu de l'argent. Donc le fait de donner de l'argent qui permet aux gens de pouvoir faire des meilleurs choix de consommation, c'est tout un bénéfice pour la société.
C'est un cercle vertueux, oui.
Il faut réamorcer la pompe dans l'autre sens, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est plutôt dans le sens du toujours moins, de toujours moins.
Et ben en tout cas, un grand merci Florent de nous avoir accordé ton temps et de nous offrir ton énergie.
Merci à toi de m'avoir invité dans cette émission.
Avec plaisir.
Et merci beaucoup. Et on se quitte avec une toute dernière chanson, c'est Les Escrocs avec Ça me fait bizarre. Alors on aura juste un extrait, hein, mais vu que la vie est facile comme une descente en vélo des fois, eh bien je vous la propose. Et on se retrouve le mois prochain avec un thème qui sera...
Alors, on va en faire deux en même temps. On va faire les femmes et le Caire.
Alors c'est parti. Au mois prochain, au revoir.
Ça me fait bizarre de voir s'en aller un par un tous les gens que j'aimais bien, toutes mes copines et mes copains. Ça me fait bizarre Quand les enfants m'appellent monsieur, quand on me vouvoie d'un air sérieux, ça m'en fiche un sacré coup de vieux. Ça me fait bizarre de sortir de l'enfance comme ça du jour au lendemain. On se retrouve seul sur son chemin. Ça me ferait bizarre de ranger au fond d'un placard tous mes joujoux et ma guitare. Ça me ferait bizarre, moi je croyais que la vie c'était facile et rigolo, comme une balade à vélo, toujours dans le sens de la descente, qui avait qu'à glisser sur la pente. Alors qu'en vérité, ça n'en finit pas de grimper, et faut en avoir plein les cuisses pour grimper jusqu'au grand précipice.